L'image est saisissante, celle du pape François rendant une visite de courtoisie le 20 septembre dernier à Fidel Castro dans sa retraite hospitalière. Et d'ailleurs, à peine arrivé à l'aéroport, François avait aussitôt pris des nouvelles du leader Maximo auprès de son successeur Raoul, le président cubain, le priant de transmettre ses sentiments de spéciale considération et de respect à son frère Fidel. Une preuve supplémentaire que même dans sa maladie et sa retraite, Fidel Castro reste une figure importante de l'histoire politique contemporaine du monde. Fils d'Angel Castro Arguiz, un riche propriétaire terrien espagnol originaire de Galice, Fidel Alejandro Castro Ruz aurait pu mener une vie tranquille de fils à papa et de riche héritier. Mais il a à peine 11 ans lorsqu'il mène sa première rébellion en janvier 1938 contre l'autoritarisme d'un enseignant du collège religieux des Frères de la Salle. Il ne gagne pas cette fois et doit changer d'établissement. Étudiant à la fois brillant et bruyant, son formateur, le père Armando Llorente, dit déjà de lui qu'il s'est distingué dans toutes les matières littéraires. Excellent et rassembleur, il a été un véritable athlète défendant toujours avec courage et fierté le drapeau du collège. Il a su gagner l'admiration et l'affection de tous, poursuit le prêtre, et il poursuivra les études de droit. Nous ne doutons pas qu'il remplira des pages brillantes du livre de sa vie. Des propos flatteurs, peut-être influencés par des sentiments personnels, possibles. Fidel Castro s'était jeté dans un fleuve quelques mois plus tôt pour sauver son professeur qui était emporté par le courant. Une prémonition qui, comme on le voit, s'est accomplie, car Castro n'a que 20 ans en 1945 lorsque, étudiant en droit, il prend le leadership de manifestations contre la corruption du gouvernement du président Ramón Grau San Martín et les menaces ou comme les répressions, au lieu de l'intimider, renforcent sa détermination, comme le raconte Max Lennox. Trois ans plus tard, il est à l'avant-garde du soulèvement populaire déclenché par l'assassinat de Georges Eliébert Gaïtan, leader politique progressiste, ce qui ne l'empêche pas d'obtenir ses diplômes et de s'établir comme avocat dès 1952, se donnant pour priorité de défendre les petites gens. Déjà piqué du virus de la politique, il adhère au parti orthodoxe dont les orientations, au-delà de la gouvernance, sont nettement communistes, notamment la souveraineté nationale, l'indépendance économique par la diversification de la production agricole, la réforme agraire, le développement de l'industrie, la nationalisation des services publics, la lutte contre la corruption et bien sûr la justice sociale avec la défense des travailleurs. Un comble pour un fils de riche. Lorsque le 10 mars 1952, le général Fulgencio Batista renverse le gouvernement et obtient dans la foulée le soutien de l'Amérique, c'en est trop pour Fidel Castro. Il dépose une plainte contre Batista pour rupture de l'ordre constitutionnel et déclare « Si les tribunaux existent, Batista doit être sanctionné. Et si Batista n'est pas sanctionné, comment ce tribunal pourra-t-il ensuite juger un citoyen pour sédition ou rébellion contre ce régime illégal produit de la trahison impunie ?» plaide le jeune avocat. Un an plus tard, à la tête d'une escouade de 131 hommes, il tente de prendre la garnison de Santiago sans succès. Un échec qui coûtera la vie à 55 de ses compagnons. Arrêté, il se défend tout seul et écope de 15 ans de prison, mais n'en purgera que deux. Le 2 décembre 1956, il rassemble 82 combattants, dont son propre frère Raoul et son désormais fidèle compagnon Che Guevara, sur une embarcation de 25 places, direction Cuba, où il veut déclencher une guerre de libération. Commence alors une guerre où, malgré la supériorité numérique de l'armée de Batista appuyée par les Américains, Castro se montre fin stratège et enchaîne les victoires. Le 1er janvier 1959, la guérilla menée par les 300 hommes de Castro mettra définitivement en déroute les 20 000 soldats de Batista. Une victoire mal digérée par les États-Unis d'Amérique, qui encourage près de 637 tentatives d'assassinat officiellement répertoriées, dont Castro sortira non seulement indemne, mais renforcé dans son anti-américanisme. Il dirigera son pays d'une main de fer, avec une réussite pour le moins contrastée sur le plan économique et social, et ne rendra sa démission qu'en 2008, usé par le pouvoir et la maladie.